VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mercredi 30 mars 2016. Au sommaire ce soir...
RDC, le G7, une coalition de l'opposition a fait choix de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, pour affronter Joseph Kabila à la présidentielle.
Bangui en fait, le nouveau chef d'État, Faustin-Archange Touadéra, a pris aujourd'hui les rênes du pouvoir. Mais les défis sont énormes après 3 ans de violences intercommunautaires.
Touadéra arrive à un moment où l'État n'existe que de nom. Tout est priorité présentement.
L'Union européenne met la pression sur Bujumbura. L'allocation du contingent burundais de la MISOM pourrait être revue à la baisse.
La proposition de l'Union européenne, c'est donc pas de supprimer la solde des militaires qui sont déployés sur place, mais la partie de cette solde qui est perçue par le gouvernement burundais.
Au Niger, la Cour constitutionnelle valide les résultats de la présidentielle du 20 mars, mais l'opposition continue de rejeter la réélection de Mahamadou Issoufou.
Politique américaine, les candidats républicains abandonnent leur promesse de soutenir le vainqueur des élections primaires lors du scrutin général de novembre.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Élection en RDC, Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, est devenu aujourd'hui candidat unique du G7 pour faire face à Joseph Kabila, dont la fin du mandat constitutionnel est prévue fin 2016. On ignore toutefois quand la présidentielle aura lieu. Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, fait le point.
Membre de la majorité présidentielle jusqu'à la fin de l'année dernière, Moïse Katumbi avait démissionné de son poste de gouverneur alors que le gouvernement s'apprêtait à nommer des commissaires spéciaux. Un peu après, alors qu'une discorde avait vu le jour quelques mois auparavant sur l'éventualité d'un troisième mandat du président Joseph Kabila, sept leaders de partis politiques ont été exclus de la MP. Ce sont donc aujourd'hui sans surprise d'anciens alliés du président de la République dans l'opposition au regard de la loi sur les statuts de l'opposition qui se prononcent pour la candidature d'un des leurs. Alors que l'opposition se cherche un candidat unique qui ne pourrait pas être fruit des calculs politiques, estiment certains opposants de longue date. Après Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, déjà candidat de l'opposition au scrutin de 2011, respectivement deuxième et troisième, et d'autres comme Freddy Matungulu, Moïse Katumbi est lancé officiellement dans la course. Il devrait accepter cette désignation, indique un leader du G7. Pas certain que cela soit le cas de tout le monde à l'opposition. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retour à l'ordre constitutionnel en République centrafricaine. Le nouveau président élu a été officiellement investi aujourd'hui. La cérémonie s'est déroulée en présence de deux chefs d'État africains, le Congolais Denis Sassou Nguesso et l'Équato-Guinéen Teodoro Obiang Nguema, et de plusieurs dignitaires internationaux. Freeman Sipila était sur place.
Moi, Faustin-Archange Touadéra, je jure devant Dieu et devant la nation d'observer scrupuleusement la Constitution.
La main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée, Faustin-Archange Touadéra jure devant la nation et devant le monde de respecter scrupuleusement la Constitution et de garantir l'intégrité du territoire national. Se voulant rassembleur, le nouveau président appelle les Centrafricains à la réconciliation et à la cohésion sociale pour développer leur pays. Il estime que la priorité des priorités et la sécurité. Des congratulations de ses hôtes par ordre protocolaire, la parade militaire met fin à la cérémonie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Toujours en Centrafrique, ou concernant la Centrafrique, la France va mettre fin à son opération militaire Sangaris cette année. Le relais sera ensuite passé à l'ONU, appuyé par l'Union européenne, pour le désarmement des milices et la formation des forces armées. C'est ce qu'a fait savoir le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors de l'investiture du nouveau président. M. Le Drian a expliqué que les troupes françaises sont partagées entre la défense du territoire français et différentes opérations extérieures, notamment au Sahel.
L'ONU a reconduit aujourd'hui sa mission en République démocratique du Congo pour 1 an. D'après l'ambassadeur français auprès de l'ONU, la résolution donne 2 priorités à la MONUSCO, la protection des civils dans le cadre de la lutte contre les groupes armés et le soutien à la tenue d'élections crédibles, pacifiques et démocratiques. La résolution ne change pas l'effectif actuel, qui reste fixé à plus de 21 000 soldats et policiers, alors que Kinshasa insiste sur un retrait rapide de la MONUSCO.
Exécution extrajudiciaire au Burundi, le procureur général demande aux familles de victimes présumées qui viennent de saisir la Cour pénale internationale et l'ONU de déposer de préférence leur plainte auprès de ses services car ils seraient en train de se faire manipuler par des gens qui ont d'autres agendas que la justice.
Et sachez aussi que l'ancien ministre rwandais Jacques Biozagara, arrêté en 2015 pour espionnage au profit du Rwanda, est mort subitement aujourd'hui dans une maison d'arrêt de Bujumbura. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources concordantes.
Présidentielle au Niger, la Cour constitutionnelle a validé les résultats du second tour du 20 mars. La réélection du président sortant Mahamadou Issoufou avec 92,51% des voix est donc confirmée. L'opposant Hama Amadou a recueilli 7,49% des voix. Le taux de participation est de 59,80%. L'opposition affirme qu'elle ne reconnaîtra pas M. Issoufou comme président à partir du 1er avril, date de la fin de son premier mandat.
Vers une possible levée de la limitation de deux mandats présidentiels en Mauritanie. Au cours d'un point de presse, le porte-parole du gouvernement a estimé qu'un troisième mandat pour le président Mohamed Ould Abdelaziz constituait une demande de la majorité du peuple.
Côte d'Ivoire, les chasseurs traditionnels ont décidé de lutter contre les djihadistes aux côtés des forces régulières. Nous voulons user de nos pouvoirs mystiques destinés au départ à maîtriser les animaux féroces pour dompter ces terroristes, explique-t-il à l'issue d'un conclave de deux jours. Déclaration qui intervient suite à l'attentat qui a fait 19 morts à Grand Bassam.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire général Ban Ki-moon a convoqué une réunion aujourd'hui à Genève destinée à trouver des pays d'accueil aux réfugiés syriens. Il a appelé à une augmentation exponentielle de la solidarité mondiale pour régler le problème. Maëly Segal.
Nous sommes ici pour répondre à la plus grande crise de réfugiés et de déplacés de notre temps, a dit Ban Ki-moon. Le secrétaire général de l'ONU a indiqué qu'au moins 480 000 Syriens, soit 10% des réfugiés et déplacés qui ont fui le conflit en Syrie, ont besoin de trouver un pays d'accueil au cours des trois prochaines années. Il a rappelé que les voisins de la Syrie ont fait preuve d'une hospitalité exceptionnelle. Le Liban a accueilli plus d'un million de Syriens, la Turquie plus de 2,7 millions et la Jordanie plus de 600 000. Selon un rapport publié mardi par l'ONG britannique Oxfam, les pays riches n'ont réinstallé que 67 000 réfugiés syriens, soit 1,39% du total. Ban Ki-moon a appelé ces pays à faciliter l'admission de réfugiés syriens. Ban Ki-moon a insisté sur le fait que tous les pays peuvent faire beaucoup plus pour le peuple syrien. Le conflit syrien est en effet entré dans sa sixième année et a déjà fait plus de 270 000 morts.
Les dommages causés par la guerre en Syrie depuis son déclenchement en 2011 ont dépassé les 200 milliards de dollars. C'est ce qu'a déclaré le président syrien Bachar al-Assad dans une interview à l'agence de presse russe RIA Novosti, diffusée ce mercredi. Monsieur Assad, rapporte l'AFP, a estimé que les problèmes économiques pourraient être réglés dès que la situation sera plus stable, mais que réparer les infrastructures prendra beaucoup plus de temps. Sur le plan politique, le leader syrien a fait savoir que le gouvernement de transition doit rassembler le pouvoir et l'opposition. De son côté, l'opposition syrienne a rejeté l'appel de Bachar al-Assad, réitérant que le président ne doit pas rester une heure de plus après le début de la période de transition.
Politique américaine, un mercredi particulièrement chargé, 4 des 5 candidats ayant tenu des meetings. Clinton et Sanders étaient à New York, tandis que Donald Trump et Ted Cruz battent campagne dans le Wisconsin. Mais ce qui fait buzz dans les milieux politiques, c'est le refus des candidats républicains de soutenir sans condition le vainqueur de leur primaire. Tatiana Mosso.
Lors d'une rencontre citoyenne radio-télévisée hier soir, les trois républicains encore en lice, Donald Trump, Ted Cruz et John Kasich, ont trouvé un terrain d'entente. Il faut vaincre les djihadistes du groupe État islamique. Mais quant à leur soutien de celui qui sera investi candidat du parti pour affronter les démocrates en novembre, pas question. Au début de la course, lorsque le champ républicain était beaucoup plus vaste, tous les candidats se sont engagés à soutenir celui qui finirait par devenir le porte-étendard du parti en novembre. Cependant, la campagne a été si acrimonieuse qu'un engagement à cet effet n'a plus de sens pour aucun d'eux. Cruz dit qu'il ne peut soutenir un candidat qui a insulté sa femme, entendait Donald Trump. Celui-ci dit que les dirigeants républicains ont été injustes à son égard, donc il ne promet de soutien à personne s'il n'est pas élu. Kasich, lui, veut attendre de voir comment ça va finir. En attendant, Trump reste en tête du peloton et espère creuser davantage l'écart le 5 avril dans le Wisconsin.
En France, faute de consensus politique, le président François Hollande a annoncé aujourd'hui l'abandon d'une réforme contestée de la Constitution. Il avait annoncé après les attentats djihadistes de novembre 2015 à Paris ce projet qui prévoyait notamment une extension de la déchéance de nationalité. Le président français a par ailleurs réaffirmé que la menace reste plus élevée que jamais, évoquant les attentats de ces derniers mois à Paris, Bruxelles ou Lahore.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Les vieux démons de la dette resurgissent en Afrique. Malgré l'allègement massif dont ont bénéficié 30 pays africains entre 2000 et 2014, dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés, les PPTE, l'effondrement brutal des cours des matières premières, le ralentissement de leurs économies et aussi la chute des monnaies locales ont fait ressurgir ces dernières années le spectre de la dette sur le continent. L'initiative PPTE avait pourtant permis de réduire la dette extérieure de 119% du PIB à 33% pour accélérer la croissance. Fin 2015, 7 pays se trouvaient en risque de surendettement élevé. Le Burundi, le Cameroun, le Ghana, la Mauritanie, la République centrafricaine, Sao Tomé et Principe, ainsi que le Tchad. Si vous voyagez après le 30 juin à Dubaï, une taxe de 9,5$ vous sera appliquée, même en transit, même sans sortir de l'aéroport. Cette décision a été prise pour financer les expansions des aéroports de Dubaï. En 2015, 78 millions de passagers ont utilisé l'aéroport international de Dubaï, dont la capacité annuelle a été portée à 90 millions depuis le mois dernier. Les cours du pétrole ont ouvert en hausse à 39,13$ ce mercredi à New York, rebondissant après un mauvais début de semaine dans un marché plutôt optimiste, avant la publication hebdomadaire des chiffres sur le niveau de l'offre américaine.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
L'actualité sportive ce soir nous est présentée par John Linden. Salut John.
Bonjour Gabi.
Alors on commence par la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Le Maroc, premier qualifié.
Oui, le Maroc a obtenu son ticket pour la CAN 2017 grâce à une victoire à domicile contre le Cap-Vert mardi, 2-0. La sélection égyptienne se rapproche également de la qualification après avoir éliminé le Nigeria sur le score d'un 1-0. Les Fennec d'Algérie restent leaders du groupe J après un nul de 3-0 contre l'Éthiopie. Les Sénégalais, eux, restent leaders de leur groupe avec 10 points devant l'Éthiopie, 5 points. Dans le groupe B, la RDC a pris une belle option pour la qualification en battant l'Angola 2-0. Pour le reste, la Tunisie s'accroche, le Cameroun patine, la Guinée reste en vie. Le Nigeria est à la trappe. Quant aux éléphants, ils restent maîtres de leur destin, mais ils devront attendre septembre prochain pour valider leur qualification face à la Sierra Leone.
Toujours en rapport avec la CAN 2017, John, on en sait un peu plus sur les vraies raisons du forfait du Tchad.
Oui, c'est le magazine Jeune Afrique qui révèle l'information. On apprend ainsi que si les SAO du Tchad ont déclaré forfait pour la compétition, ce n'est pas pour cause d'indisponibilité financière comme officiellement annoncé, mais plutôt parce que les joueurs ont refusé de jouer, n'ayant pas reçu leur prime.
Au Cameroun, il n'y a pas de feu entre le capitaine des Lions Indomptables, Stéphane Mbia, et Vincent Aboubakar.
En tout cas, c'est Vincent de Paula Tangana, team press officer des Lions Indomptables, qui le dit. Pour lui, tout cela ne relève que de la rumeur, d'où cette mise au point, et je cite, « Suite à des informations qui circulent en ce moment au Cameroun et qui font état d'un échange houleux entre Stéphane Mbia et Vincent Aboubakar après le match contre l'Afrique du Sud à Limbé, je tiens à porter à l'attention de l'opinion publique qu'il n'y a jamais eu d'altercation entre les deux coéquipiers dans les vestiaires. » Fin de citation.
Et John, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Cleveland, Houston, 100 et 106, Golden State, Washington, 102 et 94, et puis Philadelphie, Charlotte, 85 et 100.
Voilà pour les sports ce mercredi. Merci, John Linden.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. Place au dossier du jour. Au premier escale ce soir, Bangui, où un nouveau président a prêté serment aujourd'hui.
En effet, Faustin Archange Touadéra a prêté serment comme président de la République centrafricaine. Il s'est engagé à remplir sa mission sans considération ethnique et ne jamais exercer son pouvoir à des fins personnelles. Son pays se remet, il faut le dire, à peine de 3 années de violences meurtrières, des violences intercommunautaires. Sur les nombreux défis qui attendent le tout nouveau président, Idriss Fall a joint Mathurin Moumet, directeur du journal Le Confident à Bangui.
Touadéra arrive à un moment où l'État n'existe que de nom. Tout est priorité présentement. Il y a d'abord la sécurité, la réhabilitation de l'armée nationale, le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion et rapatriement. Tout ceci nécessite la mobilisation de la communauté internationale parce que la RCA a une économie qui est dans un état comateux. Ensuite, la restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire déployer l'administration dans tout le pays. Les préfectures, en majeure partie, sont sous contrôle des groupes armés qui contrôlent tout. Les recettes de l'État, la collecte de café et des produits de ressources naturelles. Et ensuite, il y a l'éternel problème d'énergie. On ne peut pas parler création d'entreprises ou développement quand la fourniture de l'énergie se fait d'une manière irrégulière.
Vous pensez que Touadéra a les moyens, sans armée, de désarmer les groupes qui contrôlent des pans entiers du pays?
C'est une question de volonté politique. Si la RCA n'était pas sous embargo, je crois que nos forces de sécurité et de défense, nous avons la capacité.
Les FACA ont déjà montré leurs limites face à l'avancée de l'ex-Séléka dans Bangui, non?
Mais laissez-moi vous dire, est-ce que quelqu'un qui est sans armes peut se présenter devant celui qui a des armes? Voilà la situation dans laquelle Bozizé a laissé l'armée. L'armée était démunie. Nos soldats ont fait des études dans les mêmes écoles que les pays, autres pays francophones ont fait. Vous trouvez normal qu'ils ne puissent pas défendre leur territoire s'ils étaient dans les conditions? Non, il y avait des armes, mais Bozizé avait peur de perdre le pouvoir. Il n'a pas remis ça aux gens et il ne les a pas mis dans les conditions idéales. Il a privilégié ses parents, il a privilégié les rebelles. C'est ça la situation de la République centrafricaine.
Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus gros danger auquel le président devra faire face?
Le plus gros danger, les membres de son groupe ethnique, ceux qui sont ralliés à lui, et son cabinet, puissent émettre un seul et même son. Tous ceux qui gravitent tout autour doivent avoir un seul objectif, sauver la République centrafricaine. Et non, je suis parent, je dois être privilégié par rapport à l'autre. Mais s'il s'agissait seulement des parents, il est issu d'une ethnie minoritaire. Il ne serait pas ici à ce niveau. Être élu avec plus de 102%, ça c'est déjà la victoire du peuple.
Voilà, c'était M. Moumet du journal Le Confident à Bangui.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur le recrutement des jeunes par des groupes djihadistes. En Afrique, plus de 40 millions de jeunes sont des recrues potentielles de terroristes, d'après l'ONU. Pourquoi des jeunes se laissent-ils tenter par le terrorisme? Quelles sont les armes de recrutement de ces mouvements radicaux? Comment contrer un tel recrutement? Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Au Cameroun, la police a interpellé mardi une soixantaine d'opposants rassemblés à Yaoundé pour dénoncer toute tentative clandestine de modification constitutionnelle de la part du pouvoir afin d'avancer l'élection présidentielle prévue en 2018. C'est ce qu'a appris l'AFP auprès des opposants. Pour plus de détails, John Lindon, adjoint à Yaoundé, Christophe Bobiokono, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés.
La police, très tôt, a occupé le siège du MRC, le parti du professeur Maurice Kamto, qui devrait abriter cette conférence-là. parce que l'autorité administrative estime que c'est une réunion publique qui devrait être déclarée et qui ne l'a pas été. Donc c'était une façon d'interdire la réunion. Et comme les personnes sont arrivées et ne pouvaient pas avoir accès aux locaux du parti en question, il y a eu un attroupement sur la voie publique. Et après la déclaration qui a été faite sur la voie publique par les partis politiques concernés et les échanges avec les journalistes, la police a sauté sur les personnes présentes. Les personnes présentes ont été arrosées au canon à eau et toutes les personnes qui ont été interpellées ont été conduites au commissariat central des renseignements généraux et elles ont été progressivement auditionnées et libérées progressivement.
Est-ce que ces interpellations ont quelque chose à voir avec les appels par les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais invitant le président Biya à se représenter? Est-ce qu'il y a un rapport?
Je crois qu'il y a un rapport. D'abord parce que les leaders des quatre formations politiques dont je viens de parler demandent une révision du code électoral. Donc c'est pour dire que s'il y a élection anticipée, il faudrait bien que les règles du jeu soient revues de manière à ce que le scrutin soit libre, transparent et équitable.
Quelle est la réaction des leaders d'opposition, notamment des partis concernés ici?
J'ai pu voir les leaders de toutes ces formations politiques, ceux qui étaient présents à la fameuse conférence de presse, qui ont décidé d'aller au commissariat et qui sont restés au commissariat. Et ils étaient, me semble-t-il, décidés à y rester tant que le dernier de leurs militants n'avait pas été libéré.
De manière générale, au-delà de ces arrestations et de ces appels à candidature au président Biya, quelle est la nature du climat social en ce moment au Cameroun?
En tant que membre de la Commission nationale des droits de l'homme, je me sens préoccupé par la question de la gestion des réunions publiques et des manifestations publiques où on a l'impression que toute réunion ou toute manifestation publique organisée par les organisations de la société civile ou par les partis politiques d'opposition sont systématiquement interdites, dispersées ou donnent lieu à des arrestations comme celle-là, alors que les regroupements du parti au pouvoir se tiennent sans problème.
Christophe Bobiokono, membre de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun, joint à Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Crise burundaise, l'Union européenne envisage d'accentuer la pression sur le président Pierre Nkurunziza en réduisant le financement des quelque 5500 soldats burundais de la mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. Pour analyser l'impact qu'aurait une telle mesure, Timothée Donangmaï a joint à Bruxelles Emmanuel Klimis, chercheur à l'Université Saint-Louis.
La solde des militaires qui sont déployés en Somalie dans le cadre de cette opération de maintien de la paix des Nations Unies. Et donc c'est un budget de l'Union européenne qui paye cette solde. Cette solde s'élève à peu près 1 000-1 200 dollars américains par personne et par mois. Et le fonctionnement au Burundi, ça dépend un peu d'un État à l'autre, mais le fonctionnement au Burundi, c'est que sur ce millier de dollars américains, il y en a 800 qui atterrissent, en tout cas en théorie, dans la poche des différents militaires déployés sur place, et environ 200 qui sont prélevés par le gouvernement burundais. La proposition de l'Union européenne, c'est donc pas de supprimer la solde des militaires qui sont déployés sur place. Là, l'effet serait quand même relativement déstabilisant. Ça veut dire qu'on aurait plus de 5000 militaires armés et entraînés qui se retrouveraient non payés. Mais ce que propose l'Union européenne, au contraire, c'est de supprimer la partie de cette solde qui est perçue par le gouvernement burundais.
Dans ce cas, est-ce que le gouvernement burundais ne pourrait pas être amené à rappeler son contingent en Somalie?
Ça n'est pas nécessairement ce que souhaite le gouvernement burundais. Il ne faut pas perdre de vue que le fait d'envoyer des militaires en Somalie a été un moyen pour le gouvernement burundais de pacifier ses relations avec l'armée, de faire en sorte que des militaires qui, vous le savez, dans des pays en situation de crise, leur permettent d'être satisfaits, quoi, d'obtenir quelque chose dans la situation de crise actuelle. Ça a permis aussi, il y a une série d'études qui l'ont montré ces dernières années, d'éloigner de Bujumbura une série de hauts responsables militaires qui ne sont pas nécessairement en accord avec l'ensemble des décisions du gouvernement, mais qui, à travers le commandement qu'ils ont reçu en Somalie, se retrouvent pas dans le jeu politique et diplomatique au sein même des discussions au Burundi. Rappeler ces troupes au Burundi, ce serait aussi un aveu d'impuissance face à cette situation. Ce serait reconnaître que le Burundi n'a plus cette capacité, ce qui est un symbole extrêmement important auquel, à mon sens, le gouvernement burundais renoncerait avec énormément de réticence.
On écoutait Emmanuel Klimis, il est chercheur à l'Université Saint-Louis de Bruxelles.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a récompensé 14 femmes à l'occasion de la cérémonie de remise des prix Femmes de Courage au département d'État hier. Fatima Tambay, avocate et présidente de l'Association mauritanienne des droits de l'homme, est l'une des lauréates. Elle a obtenu la première condamnation pour l'exploitation des enfants et la première peine de prison appliquée en vertu de la loi anti-esclavage de 2007. Madame Fatima Tambay a été interviewée par Nathalie Barge au département d'État juste après la cérémonie.
Je pense que ce nouveau prix vient juste confirmer l'engagement des femmes et l'engagement que nous faisons en Mauritanie contre les discriminations, contre l'esclavage et contre toutes les violences qui sont faites aux femmes. Parce que tout simplement, nous voulons créer une société de droit où les droits de chaque tout un chacun est respecté et où il y a des opportunités qui sont données à tous les citoyens mauritaniens qui, en principe, sont tous égaux devant la loi.
En 2013, vous étiez encore, bien qu'il y avait d'autres femmes avocates en Mauritanie, vous étiez toujours la seule à plaider en 2013. Est-ce qu'il en est encore ainsi aujourd'hui ?
Malheureusement, il faut constater le fait, parce que je suis toujours, même si j'étais la première femme avocate mauritanienne, je voulais briser le tabou pour dire qu'il n'y a pas de métier où la femme n'a pas le droit d'être et d'exercer. Que tous les métiers s'avalent et que la femme a la capacité intellectuelle et sociale d'appartenir et d'exercer des métiers qui sont exercés par les hommes. Et malheureusement, jusqu'ici, même si j'ai eu effectivement une quinzaine de femmes qui m'ont rejoint au barreau mauritanien, je suis toujours l'unique et la seule femme qui plaide devant les tribunaux mauritaniens. Et cela me désole parce que tout simplement, on n'est pas toujours jeune et c'est bientôt peut-être la retraite, etc. Et je voudrais bien que la relève soit assurée par mes concitoyennes qui ont fait des études très élevées en droit, qui sont aujourd'hui des docteurs en droit, et qui peuvent parfaitement, de la même manière qu'elles sont devenues des professeurs à l'université, peuvent très bien exercer en tant qu'avocat et plaider devant les tribunaux, effectivement accompagner les personnes qui n'ont pas les possibilités de faire porter leur voix et tout simplement d'acquérir les droits.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de prisonniers politiques en Mauritanie ?
Oui, à ce jour, nous pouvons dire qu'il y a des personnes, pour moi, c'est des défenseurs des droits de l'homme qui sont en prison, parce qu'aujourd'hui, même si l'État de Mauritanie lutte contre l'esclavage, a adopté des lois contre l'esclavage, il n'en reste pas moins que des défenseurs des droits de l'homme contre l'esclavage sont aujourd'hui emprisonnés en Mauritanie. Je voudrais parler de Biramda Abeid et je voudrais parler de Brahim Oulbilal, qui sont aujourd'hui encore en prison pour avoir dénoncé l'esclavage foncier en Mauritanie. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui est acceptable aujourd'hui. Nous sommes au XXIe siècle et l'accès à l'esclavage est une des tares les plus horribles de notre histoire et je pense que la Mauritanie doit en tout cas lutter contre ces derniers bastions de la déshumanisation de la personne et afin que toutes ces personnes retrouvent leur liberté, retrouvent leur dignité.
Maître Fatima Tambay, lauréate du prix Femmes de Courage, rendez-vous sur voafrique.com pour l'intégralité de cette interview.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h dans Universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. On remercie Georges Léonard Sagnot qui a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Jackson Twitt à la console. Présentation, Morgane Guériac et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines et partagez vos photos ou vos vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.